bonjour et bienvenue en Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Yann.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique.
À travers leur courrier, certains de nos auditeurs nous ont posé des questions sur la pratique du jeûne dans la vie chrétienne.
C'est pourquoi, durant la série de discussions que nous continuons aujourd'hui, nous découvrirons ce que la Bible nous enseigne à ce sujet. Je souhaite la bienvenue à Robert, notre invité, qui va nous aider dans nos discussions. Bonjour Robert.
Bonjour Yann, et bonjour à tous.
Nous avons considéré durant les deux dernières émissions l'enseignement de l'Ancien Testament sur le jeûne, et aujourd'hui nous allons nous pencher sur ce que Jésus déclare à ce sujet.
C'est exact, Yann. Écoutons à ce propos un texte biblique qui rapporte les paroles de Jésus en Matthieu, chapitre 6, versets 16 à 18.
Lorsque vous jeûnez, n'ayez pas comme les hypocrites une mine triste. Pour bien montrer à tout le monde qu'ils jeûnent, ils prennent des visages défaits. Vraiment, je vous l'assure, leur récompense, ils l'ont d'ores et déjà reçue. Toi, au contraire, si tu veux jeûner, parfume tes cheveux et lave ton visage pour que personne ne se rende compte que tu es en train de jeûner. Que ce soit un secret entre toi et ton Père, qui est là, dans le lieu secret. Alors ton Père, qui voit ce qui se fait en secret, te le rendra.
Jésus semble dénoncer la façon dont certains avaient recours au jeûne à son époque.
C'est exact, Yann. Ce texte lu est d'ailleurs extrait d'un long discours de Jésus dans lequel il mentionne d'autres actes de piété, tels que la prière et l'aumône. De toute évidence, à l'époque de Jésus, certains pratiquaient ces actes de piété à la vue de tous. Lorsque de telles personnes jeûnaient, elles voulaient que tous le sachent. Elles affichaient une mine défaite, car elles voulaient être sûres d'attirer l'attention des autres sur le fait qu'elles jeûnaient.
On dirait que ces gens jeûnaient tout simplement pour avoir une bonne réputation.
C'est exact, Yann. Et c'est cette attitude, cette motivation que Jésus dénonce. Notons-le bien, Jésus ne condamne pas le jeûne en soi. Il remet plutôt en question toute pratique pieuse à laquelle on peut avoir recours pour des raisons injustes, notamment celle qui consiste à vouloir à tout prix jouir d'une bonne réputation auprès des hommes. Le jeûne implique seulement l'individu qui a recours et son Dieu. Alors pourquoi, en le pratiquant, attirer l'attention sur soi? Pourquoi plutôt ne pas demeurer silencieux dans la présence de Dieu?
Au cours de ce discours, Jésus explique que ceux qui jeûnent en public ont déjà reçu leur récompense, tandis que ceux qui jeûnent dans le secret recevront une récompense de leur Père céleste. Que signifient ces propos?
Si vous accomplissez de bonnes œuvres dans l'espoir d'être bien vu des hommes, alors vous jouirez probablement de leur estime et recevrez leur louange. Toutefois, ce sera tout ce dont vous hériterez, car de tels actes sont dépourvus de valeur. Ils n'aboutissent à aucune récompense spirituelle. Toutefois, si vous pratiquez de bonnes œuvres sincèrement pour vous approcher de Dieu, en toute discrétion, alors, en son temps, le Seigneur vous comblera d'une récompense spirituelle.
Et vers la fin de son discours, Jésus nous incite à amasser des trésors dans le ciel, plutôt que d'amasser des richesses sur la terre. Mais quelles sont donc ces récompenses qui sont le résultat d'une vie de foi vraie, discrète et honnête?
Il faut bien le préciser, nous ne devons pas nous attendre à recevoir des récompenses matérielles en guise de réponse à notre foi et à notre amour pour Dieu. Non, notre récompense sera céleste, elle sera d'ordre spirituel.
Et ces récompenses spirituelles ont une valeur infiniment supérieure à toute autre richesse matérielle. Mais en quoi consiste-t-elle exactement?
Notre trésor dans le ciel est tout simplement Dieu. Lorsque nous pratiquons le jeûne ou d'autres actes de piété, avec un cœur sincère, devant Dieu et non pour les hommes, alors Dieu se donnera à nous, il se révélera. La pratique de la piété nous rapproche de Dieu, car lorsque nous nous approchons de lui, il s'approche de nous, il se dévoile, il nous permet de le connaître.
Lors des émissions précédentes, nous avons appris que durant la période de temps relatée par l'Ancien Testament, Le jeûne était souvent pratiqué au moment de deuil ou à l'occasion de grandes crises nationales ou personnelles. Il pouvait aussi véhiculer le profond regret d'une personne, sa culpabilité face à des péchés graves. Mais cet enseignement correspond-il à celui donné par Jésus?
Ces motivations que vous venez de citer sur le jeûne sont importantes et elles peuvent donner lieu aux récompenses dont nous parlons.
Expliquez-vous davantage.
Si nous jeûnons parce que nous sommes dans le deuil ou plongés dans une épreuve douloureuse, alors nous exprimons à Dieu notre désir de lui. Nous lui faisons savoir que le connaître est bien plus important que boire et manger, que nous sommes prêts à nous priver de tout pour gagner ce qui existe de plus précieux, sa présence. Si telle est notre motivation, Dieu se donnera à nous, il se fera connaître, nous découvrirons son réconfort, nous approfondirons notre connaissance de son amour et de sa grâce. Si nous jeûnons aussi à cause de la peine qui nous accable suite à un péché grave et lui confessons nos fautes, alors nous lui confions que notre désir le plus profond désormais n'est plus de perdre du temps dans les besoins essentiels de la vie, mais plutôt de nous réconcilier avec ce Dieu si bon, afin de trouver ce qui existe de plus précieux, son pardon et sa miséricorde. Si telle est notre motivation, alors Dieu nous répondra. Il nous accordera son pardon et sa miséricorde. Notre relation brisée sera restaurée. Vraiment, il n'existe pas de trésor plus précieux.
Nous avons ainsi résumé l'essentiel de l'enseignement de Jésus au sujet du jeûne. Toutefois, que pouvons-nous apprendre de son exemple? Car nous découvrons en Matthieu chapitre 4 qu'après son baptême, il se rendit dans le désert où il passa 40 jours dans le jeûne. Oh, la raison n'en était ni le deuil ni la confession de péché.
Matthieu explique dans son évangile que c'est l'Esprit de Dieu qui conduisit Jésus dans le désert et il ajoute que ce fut pour le mettre à l'épreuve. Autrement dit, par le jeûne, Jésus prouva qu'il était à la hauteur de la mission que Dieu lui confiait. Par le jeûne et les diverses tentations qu'il subit, Jésus montra qu'il pouvait renoncer au monde pour se consacrer entièrement à Dieu. Jésus d'ailleurs l'a déclaré, « L'homme n'a pas seulement besoin de pain pour vivre, mais aussi de toute parole que Dieu prononce. » Jésus prouva que pour lui, vivre une relation de confiance et de dépendance avec le Père était plus important que de manger et boire, plus important aussi que de jouir d'une bonne réputation parmi les hommes, plus important encore que de s'emparer du pouvoir.
Et que pouvons-nous retenir de cette période de jeûne dans la vie de Jésus?
Ces 40 jours de jeûne accomplis par Jésus ne doivent pas nous forcer à faire de même. Toutefois, remarquons que ce temps fut un temps d'épreuve pour Jésus, car Satan chercha à le tenter. En effet, Dieu peut permettre que nous passions par des épreuves, que nous vivions des tentations. Il veut par ce moyen tester l'authenticité de notre foi. Il veut nous préparer à un ministère particulier. Alors, la pratique du jeûne peut nous aider à vivre le renoncement à soi, à nous rapprocher de Dieu. Par le jeûne, nous apprenons à nous détacher du monde et à dépendre de Dieu, de son esprit et de sa parole.
Merci Robert. C'est ainsi que nous arrivons à la fin de cette courte série sur le jeûne. Aimeriez-vous conclure en résumant les leçons à retenir?
Oui, bien sûr. D'abord, selon l'enseignement de la Bible, le jeûne ne représente ni une obligation, ni une interdiction, car nous sommes libres de jeûner si nous en recevons la conviction. Nous sommes aussi libres de ne pas jeûner. Nous ne devons pas non plus imposer le jeûne aux autres, ni les empêcher de le pratiquer s'ils le souhaitent. Ensuite, sachons-le, le jeûne ne représente nullement un outil pour faire plier Dieu à notre volonté. Sa pratique ne doit donc absolument pas garantir une réponse favorable de sa part. Enfin, si nous sommes accablés par le deuil, assaillis d'épreuves, en proie à la tentation et la culpabilité, par le jeûne, nous approfondirons notre connaissance de Dieu. En se privant de ce qui est essentiel, nous découvrirons des trésors spirituels qui consistent à rencontrer Dieu.
Merci Robert, merci pour votre participation tout au long de cette série.
Tout le plaisir est pour moi. Chers amis auditeurs, je vous dis au revoir et à bientôt.
Merci, Robert. Nous continuons ces discussions avec une courte méditation biblique sur le thème de la prière.
Nous allons nous pencher sur une prière de l'apôtre Paul.
Celle qu'il adressa aux Colossiens, chapitre 4, versets 3 et 4. Sandra va nous la lire, puis notre invité Étienne nous fera part de ses réflexions.
Lorsque vous priez, intercédez en même temps pour nous, afin que Dieu nous donne des occasions d'annoncer sa parole, de proclamer le secret de son plan qui concerne le Christ. C'est à cause de ce message que je suis en prison. Demandez donc à Dieu que, par ma prédication, je puisse faire connaître clairement ce message, comme il est de mon devoir de le faire.
Les priorités qui apparaissent dans les prières de l'apôtre Paul ne ressemblent pas forcément aux nôtres. Et celle mentionnée dans cette prière est probablement l'une des plus étonnantes. Paul se trouve en prison, sans doute en raison de ses activités missionnaires. Alors vous-même, si vous étiez en prison et aviez la possibilité d'écrire à vos amis chrétiens pour qu'ils prient pour vous, que leur demanderiez-vous ? De prier pour que justice soit faite, peut-être, et que vous soyez enfin libérés. Vos amis pourraient aussi intercéder auprès de Dieu pour que vous arriviez à supporter les mauvaises conditions de détention, ou encore pour que vous gardiez un bon moral et la foi. Il est important de prier ainsi pour ses frères et sœurs emprisonnés à cause de leur foi. Toutefois, combien est-il surprenant de constater que ce n'est pas de telles prières que l'apôtre Paul demande pour lui. Alors que Paul se trouvait en prison, il encourage plutôt les chrétiens à prier pour que Dieu lui accorde des occasions d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Paul était animé par le désir de faire connaître Christ, même dans les circonstances les plus adverses. Son emprisonnement n'avait pas refroidi son zèle. Son arrestation ne le fit pas céder au découragement. Bien au contraire, malgré la dureté de la vie dans les cachots, Paul cherchait des occasions pour annoncer Christ. Son ministère d'évangélisation était sa priorité incontournable. Qu'en est-il pour vous ? L'annonce de la bonne nouvelle est-elle une priorité ? Nous pouvons souffrir à cause de circonstances adverses. Devant nos événements douloureux et insurmontables, la tentation existe de baisser les bras, de sombrer dans le découragement ou l'inquiétude, de ne plus se soucier d'annoncer Christ. L'exemple de l'apôtre Paul nous rappelle cependant que nous devons être prêts à parler de Jésus en toutes circonstances. Nous pouvons prier les uns pour les autres, afin que des occasions se présentent pour annoncer la bonne nouvelle, pour que des portes s'ouvrent, pour nous permettre de faire connaître Jésus, et que des cœurs entendent nos paroles et reçoivent la grâce offerte par notre Sauveur.
Merci Étienne pour cette exhortation.
Nos deux séries sur le jeûne et la prière se terminent aujourd'hui. Chers auditeurs, nous vous remercions pour votre écoute et espérons que vous avez bien profité de cet enseignement. En attendant de vous retrouver, nous vous disons au revoir.
Au revoir et que Dieu vous bénisse.